Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres ce lundi. Liste noire du Kremlin, le ministre des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur russe pour des explications. Plus de 1000 demandes d'indemnisation suite à la contamination bactérienne de l'eau courante à Praxis. Et du tennis, Lucie Shafajova crée la surprise à Roland-Garros en terrassant la tenante du titre, Maria Sharapova. Le ministre des Affaires étrangères, le social-démocrate Lubomir Zaoralek, a convoqué ce lundi après-midi l'ambassadeur russe en poste à Prague. Le chef de la diplomatie tchèque entend demander des explications quant à la liste des 89 personnalités européennes interdites d'entrer en Russie. Sur ce document figurent 4 politiciens tchèques, dont l'un des prédécesseurs de monsieur Zaoralek, Karel Schwarzenberg, de la formation Top 09. La discussion doit également porter sur un document vidéo russe à propos de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie en 1968 qui déformerait l'histoire et constituerait, selon des historiens cités par l'agence de presse CTK, un retour aux méthodes de propagande de l'Union soviétique. Je cite la porte-parole du ministère, Mikhaïla Lagronova, a indiqué que Lubomir Zaoralek était indigné par ce film. La société des conduites d'eau et canalisation de Prague, qui appartient au français Veolia, a enregistré 1318 demandes d'indemnisation suite à la contamination bactérienne de l'eau courante la semaine dernière dans les quartiers de Davidsee et de Bubenec, provoquant diverses nausées et maux de ventre. Si la société PVK s'est engagée à distribuer des compensations financières à hauteur de 5000 couronnes par personne contaminée, ces personnes doivent présenter un justificatif remis par un médecin. De leur côté, les compagnies d'assurance traitent déjà 156 demandes. Près de 32 000 habitants ont été sans eau courante du dimanche 25 au jeudi 28 mai. La Cour constitutionnelle considère que le seuil de 5% en vigueur pour les élections européennes ne viole pas les règles d'un état de droit démocratique et permet d'éviter une division excessive du Parlement européen. Les magistrats ont ainsi rejeté la plainte transmise par la Cour administrative suprême tchèque sur la base d'une demande formulée par le Parti pirate et par le Parti des Verts. Des représentants de ces deux formations qui avaient rassemblé chacun un peu moins de 5% des suffrages lors du dernier scrutin européen en 2014 ont indiqué qu'ils respectaient cette décision tout en attendant une argumentation plus fournie. Ils comptent continuer à porter cette revendication au niveau politique. On passe au sport et au tennis. Lucie Shafajova a créé la sensation ce lundi sur le tournoi de Roland-Garros en battant en huitième de finale la tenante du titre, Maria Sharapova. La Russe, deuxième joueuse mondiale, s'est inclinée en 2-7, 7-6, 6-4. Lucie Shafajova s'offre une première participation en quart de finale à Roland-Garros, rencontre qu'elle disputera face à l'Espagnole Garbiñe Muguruza. À Paris, la meilleure joueuse tchèque actuelle, Petra Kvitova, doit encore jouer ce lundi en fin d'après-midi afin de tenter de rejoindre sa compatriote à ce stade de la compétition et pour cela, elle affronte la Suissesse Timea Bachinski. On termine avec la météo largement ensoleillée sur la Bohême à l'ouest. Le ciel est plus couvert sur la Moravie à l'est où orages et averses sont attendus mais pas autant que la fête des Yarmils qui tombe justement ce mardi. Les températures maximales vont de 23 à 27 degrés. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous proposait et présentait Pierre Ménian. La suite du programme, c'est maintenant en compagnie d'Anna Kubishta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du programme en français de Radio Prague et merci à Pierre Ménian pour son bulletin d'information. La Russie a établi une liste noire de personnalités européennes indésirables sur le sol russe, parmi elles 4 hommes politiques tchèques. Les détails en début d'émission. Cette semaine se déroulent les Journées de la foi à Prague, un rendez-vous censé familiariser le grand public avec la culture chrétienne. Tout ceci, ce sera avant de passer au sport comme tous les lundis. Bonne écoute de ce programme. « la Russie a dressé une liste noire de personnalités politiques européennes auxquelles elle a interdit l'entrée sur son territoire. S'il s'agit au total de 89 personnes et responsables militaires, 4 hommes politiques tchèques sont également visés par cette interdiction. Denisa Tomanova.
Si ce document devait rester secret, Kremlin l'appliquait depuis plusieurs mois déjà et l'aurait désormais envoyé à toutes les ambassades concernées. Cette liste de persona non grata, révélée pour la première fois par la télévision finlandaise, sera une riposte aux sanctions et interdictions d'entrée sur le territoire européen pour la Russie depuis la crise ukrainienne. La République tchèque n'a pas été épargnée non plus et 4 hommes politiques ne peuvent désormais plus pénétrer sur le sol russe. Il s'agit du président du parti Top 09 et candidat malheureux à la présidentielle, Karel Schwarzenberg, le député et vice-président du même parti, Marek Jeniček, le député européen Jaromír Štětina et l'ancien commissaire européen Stefan Füle. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Michaela Lagrunova, a fait savoir que le département ne disposait pour l'instant que d'une copie non officielle du document.
Nous n'avons pas encore reçu cette liste de manière officielle qui doit être transmise au ministère par le biais d'un courrier sécurisé. Nous supposons qu'elle devrait arriver au début de cette semaine. Ce document n'a toutefois aucun cadre juridique international. Nous ne comprenons pas pourquoi figurent sur cette liste justement les noms de nos 4 concitoyens. Nous allons bien évidemment exiger des explications de la part de la Russie.
Le Premier ministre Bohuslav Sobotka, qui a appris la nouvelle par le biais des médias, a indiqué que le gouvernement tchèque allait coordonner ses agissements avec ceux des autres pays européens. Les 4 hommes politiques n'ont pas caché leur fierté de faire partie de la liste en indiquant qu'ils sont, je cite, « en bonne compagnie ». Pour le député Marek Jeniček, son nom sur la liste traduit le fait qu'il a, je cite, « bien fait son travail ». Le président du parti Top 09, Karel Schwarzenberg, a réagi à cette information avec un brin de sarcasme.
C'est un grand honneur pour moi que de figurer sur cette liste, parce que lorsque j'ai découvert les noms des autres hommes politiques, j'ai réalisé que je me trouvais vraiment dans un cercle de personnes honnêtes et distinguées.
L'ancien commissaire européen à l'élargissement et la politique européenne de voisinage, Stefan Füle, s'est de son côté exprimé sur le sens de cette liste.
Il est ironique qu'une série de personnes qui avaient tenté au cours des dernières années, mais surtout au cours des derniers mois, de nouer un dialogue ouvert et constructif avec la Russie et de trouver une solution, figurent sur la liste. À l'époque, celui qui n'était pas ouvert au dialogue et qui ne répondait pas, c'était précisément la Fédération de Russie.
Stefan Füle a également précisé la différence entre la liste émise par l'Union européenne et celle par la Russie. Stefan Füle.
Tandis que nos collègues russes peuvent savoir exactement pourquoi nous avons choisi d'inscrire telle ou telle personne sur notre liste, de notre côté, nous ne connaîtrons pas leurs raisons à eux. Je dirais qu'il s'agit d'un geste symbolique de leur part, dans la mesure où tout contenu ou objectivité sont absents de cette liste.
Parmi les 89 personnalités politiques qui ne sont désormais pas les bienvenues sur le sol russe, figurent également 4 Français, dont l'ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit ou le philosophe Bernard-Henri Lévy. Ce dernier a fait savoir que ce document dressait la liste de 89 démocrates et amis de la liberté. La Pologne compte quant à elle le plus grand nombre de persona non grata, à savoir 17 au total. Ce lundi après-midi, le ministre des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, a convoqué l'ambassadeur de Russie en République tchèque, Sergei Kesselev, afin qu'il lui fournisse des explications.
Lancée samedi, les Journées de la foi à Prague présentent la vie des chrétiens dans la capitale à travers un riche programme culturel. Un petit défi en soi, alors que l'on sait que la République tchèque est un des pays les plus athées d'Europe. Cette manifestation, qui est organisée en République tchèque pour la toute première fois, fait suite à la Nuit des Églises, dont la 6e édition s'est tenue vendredi passé. Alžběta Tichá.
Tandis que la nuit des églises invite les gens à venir dans nos églises, lors des journées de la foi, les chrétiens vont sortir dans les rues pour rencontrer les non-croyants dans l'espace public, annonce le directeur du projet Michal Niemeček sur le site internet de l'événement. Organisé à l'occasion du 600e anniversaire de la mort du réformateur Jan Hus, personnage majeur du christianisme tchèque, les journées de la foi veulent donc avant tout promouvoir un dialogue entre les chrétiens de différentes églises et le grand public. Organisatrice au sein de la section culturelle, Anna Brodinova en dit plus.
La journée de la foi, c'est un événement culturel d'évangélisation. En fait, c'est un plus grand événement de ce genre dans 25 ans dernier. Et en fait, on veut introduire la foi et la vie des chrétiens contemporains au Prague qu'on rencontre dans la rue. L'organisateur principal, c'est l'archevêché de Prague. Mais c'est un projet œcuménique, alors ce sont toutes les églises chrétiennes, aussi les communautés, etc., les paroisses. Ça s'est déjà passé à Vienne et à Bratislava. Ça s'est très bien passé, donc maintenant c'est à Prague de le faire. On pense que c'est important parce que Prague, c'est au milieu de l'Europe et il y a beaucoup de gens de Brno, d'Ostrava qui viennent pour nous aider à tout faire. Et aussi, il y a des gens de Pologne, de Slovaquie qui viennent pour ce journée.
Des conférences et des manifestations culturelles apportant différents regards sur la religion et la foi et des rencontres entre les chrétiens et le grand public, comme celle autour d'un petit déjeuner à Vršovice, autour des danses traditionnelles juives ou encore autour des chants de Thésée, représentent le gros de la programmation des journées de la foi. Anna Brodinova précise en indiquant les principaux points forts de ce riche programme.
Il y a plus de 300 programmes qui sont organisés par plus de 80 paroisses et communautés dans Prague entière. Et en fait, il y a des programmes organisés par les paroisses. Donc il y a même des courses à Stromovka avec pique-nique. Puis il y a des jeux pour des enfants. Et puis il y a des programmes centraux. Il y a des conférences. Par exemple, avec Daniela Drtinová, la présentatrice de télévision, qui va en fait interroger les gens qui sont dans les monastères. Puis, en fait, il est aussi possible de rencontrer l'archevêque Duka au café Krasny Straty, où il sera disponible à prendre un café avec vous. Il y a aussi beaucoup de concerts, par exemple, des Jiří Skivin ou joueur du piano, musicien du piano Radoslav Kvapil, qui a joué même à Carnegie Hall. Il y a un chanteur anglais, Martin Smith, qui arrive aussi. Et tout va finir par un grand concert de Hradištěn à Staroměstské náměstí, à la place de la vieille ville.
Mis à part les concerts, le public pourra découvrir également des pièces de théâtre, une exposition consacrée à Gregor Mendel, abbé Augustin et père fondateur de la génétique, ou un festival du film au cinéma Svetozor. Intitulé Boží Beák, une expression qui pourrait être traduite littéralement comme le ciné divin, mais avec une double signification en tchèque, celle du cinéma appartenant à Dieu et celle d'un excellent film. Ce festival est organisé sous le patronage du réalisateur tchèque Jiří Strach. Anna Brodinová poursuit.
Il y a plusieurs films avec la thématique de la foi. Mais ils ne sont pas juste chrétiens, mais c'est plutôt pour introduire et pour présenter la foi et la vie. Donc c'est la thématique est liée. Il y a par exemple le film Des hommes et des dieux, qui est français, qui est des moines trappistes qui ont été tués en Algérie dans les années 90.
Avec Des hommes et des dieux, le festival présentera un autre film français et encore un film franco-italien, plus précisément Marie Hurtin, l'histoire d'une fille sourde et non-voyante élevée par une religieuse, et Habemus Papam qui montre les moments avant l'élection d'un nouveau pape. Les Journées de la foi à Prague, qui s'achèvent le samedi 6 juin, ont reçu la bénédiction du pape François. À noter également que la plupart des événements sont gratuits. Plus de détails sur www.dinevire.cz.
Comme chaque lundi, on retrouve notre rubrique sportive avec du cyclisme et le Tour d'Italie, du tennis bien entendu avec Roland Garros et du foot avec un bilan du championnat tchèque dont la dernière journée a été disputée ce week-end. Une rubrique proposée par Guillaume Narguet avec la participation de Benoît Rouzeau.
Thank you. sport en République tchèque.
Et on commence avec du tennis. Les dernières heures ont été contrastées pour les joueurs tchèques en lice à Roland-Garros. D'abord pour Tomáš Berdych, avec la fin des espoirs tchèques dans le tableau masculin. Puis Lucie Šafářová, qualifiée elle pour son premier quart de finale à Roland-Garros.
Dimanche soir, un des favoris est tombé sur le central Philippe Châtrier. Tomáš Berdych était l'éliminé surprise des huitièmes de finale. Face à un Joe Wilfried Tsonga survolté devant son public et en pleine possession de ses moyens, la tête de série numéro 4 a été dominée en 4-7, 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Remportant le troisième set, Berdych a entretenu l'illusion le temps d'un tie-break avant de rendre les armes au quatrième set. Si ce duel de costaud s'annonçait disputé, il a rapidement tourné à l'avantage de Tsonga, vainqueur expéditif de la première manche en 46 minutes, avant d'enchaîner en deux autres sets gagnants. Visiblement agacé par les conditions climatiques indécises, Berdych a eu du mal à rentrer dans son match. Mais est-il vraiment rentré d'ailleurs? Hormis son sursaut d'orgueil dans la troisième manche, le Tchèque n'a jamais semblé en mesure de rivaliser avec le Français. Conscient d'être passé à côté et dépité de sa prestation, Berdych, qui n'a jamais gagné le moindre match sur le court central à Roland-Garros, s'est confié.
Cela ne dépend que de moi et de mon jeu. Ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h. Je ne peux quand même pas dire que c'est le cours qui ne me réussit pas. Non, jusqu'à présent, je n'ai jamais suffisamment bien joué sur le cours central pour pouvoir gagner. Je n'y ai jamais joué à mon niveau habituel et c'est la raison de mes défaites.
Ce lundi, en fin de matinée sur le central, Lucie Šafářová est logiquement venue à bout de la tenante du titre, Maria Sharapova, en 2-7, 7-6, 6-4. Après une entame accrochée, la Tchèque, 13e joueur mondial, est finalement parvenue à dominer la Russe. Grâce à son service et ses coups droits gagnants, elle a mis au supplice la numéro 2 mondiale, qui a fini par plier au bout d'un bras de fer long d'1h50. Šafářová se hisse ainsi en quart de finale, le premier de sa carrière aux internationaux de France, où elle retrouvera l'Espagnol Muguruza, 21e mondial.
On reste en la compagnie de Benoît Rouzeau pour parler maintenant vélo-cyclisme. Dimanche, la 21e étape Milan-Turin a clôturé l'édition 2015 du Tour d'Italie et scellé le triomphe d'Alberto Contador. Le coureur espagnol a remporté l'épreuve pour la deuxième fois de sa carrière après son premier succès de 2008 et ainsi réussi la première partie de son pari de doubler Giro et Tour de France. Côté tchèque, la satisfaction est venue de la performance de Leopold Koenig. Le jeune coureur de 27 ans de l'équipe Sky a réalisé sa meilleure prestation dans un grand tour en se classant 6e du général à moins de 11 minutes du vainqueur. Libéré de ses obligations d'équipier après l'abandon de son leader, l'Australien Richie Porte, le grimpeur originaire de Moravie a parfaitement saisi sa chance. C'est donc ce que nous explique Benoît Rouzeau.
Alors que la formation Sky misait sur son leader australien Richie Porte pour accrocher un podium, voire inquiéter Contador, elle a dû se résoudre à changer son fusil d'épaule après la déconvenue de la 15e étape entre Marostica et Madonna di Campiglio. Dans l'avant-dernière ascension, sur les pentes du Passo d'Aone, l'accélération du tempo imprimé par l'équipe kazakh Astana décramponnait irrémédiablement Porte du groupe des favoris. Koenig faisait mieux que résister et s'adjugeait la 7e place à une minute seulement de l'Espagnol d'Astana, Mikel Landa. Grâce à cette performance, le champion tchèque intégrait le top 10 et ne le quittait plus. Épuisé et déjà en difficulté la veille sur le contre-la-montre entre Trévise et Valdobbia d'Ene, Richie Porte comptait 27 minutes de retard et décidait de jeter l'éponge, laissant ainsi la voie libre à Koenig. Après la journée de repos, le Morave confirmait sa bonne forme en terminant 9e de l'étape alpestre entre Pinzolo et Aprica. Ne restait alors plus qu'à gérer les dernières épines des 19e et 20e étapes. Malgré les banderilles du leader italien d'Astana, Fabio Aru, qui secouait sévèrement le peloton, le Tchèque tenait bon et confortait sa place au classement en finissant respectivement 8e et 9e. La dernière étape, généralement vouée aux sprinteurs, devait s'envisager de façon plus sereine pour le nouveau patron de la Sky. Elle occasionna cependant une belle frayeur à Koenig, victime de deux ennuis mécaniques.
J'ai fait le plein d'émotions car dans les 10 derniers kilomètres, j'ai bien failli perdre tout le bénéfice des 3500 précédents. Et c'était le 3e grand tour de ma carrière, mon premier avec Sky, mon premier Giro, et c'est mon meilleur résultat, en plus dans une position initiale de coéquipier. Je suis très satisfait, même s'il y a, c'est vrai, le petit regret de ne pas avoir conservé ma place parmi les 5 premiers au général. En même temps, j'aurais pu aussi tout perdre dans cette dernière étape. Le cyclisme est comme ça. Un moment d'inattention, une défaillance ou une chute peuvent tout changer.
Fortune diverse pour les Tchèques au Giro. Si Leopold Koenig a donc confirmé tout le bien que beaucoup d'observateurs pensent de lui, Roman Kreuziger, lui, n'a pas eu la même chance. A l'instar de Richie Porte, l'équipier d'Alberto Contador au sein de la Tinco Saxo a lui aussi été en grande difficulté sur les pentes du Passo Daon, accusant près de 5 minutes 30 de retard. Cantonné à un rôle de lieutenant, il a fini à la 28e place de ce Giro à 1h47 de son leader. Enfin, pour sa première participation à un grand tour, le Pragois de 22 ans, Petr Vakoš, de l'équipe Ethic Quickstep, a bouclé ce Tour d'Italie à la 116e position au classement général.
Et puis la 30e et dernière journée de la Cynotliga, le championnat de République tchèque de football, a été disputée le week-end écoulé. Cette saison 2014-2015 a été marquée par le 3e titre de champion du Viktoria Plzeň, un sacre sur lequel nous sommes largement revenus dans nos émissions précédentes. Inversement, le Sparta Prague a abandonné sa couronne, retrouvant ainsi un fauteuil de dauphin auquel il n'est désormais plus inhabituel de trouver le grand club tchèque. De la saison achevée, on retiendra également la montée en puissance de Jablonec ou encore la confirmation du passage vers un jeu plus positif et offensif de nombreuses équipes. Responsable de la rubrique sportive des quotidiens nationaux, Mlada Frontadnes et Lidové Noviny, Andrzej Tronečka a évoqué tout cela au micro de Radio Prague et a d'abord répondu à la question de savoir pourquoi le Sparta a une nouvelle fois fini deuxième. Andrzej Tronečka.
C'est une question très très difficile. Peut-être ils n'ont pas une vision à long terme, je pense. Mais ça me semble comme ça parce que c'était bien avec M. Kuslavavička, si je parlais que Pavel Ruba est l'un des meilleurs, de deux meilleurs entraîneurs en République tchèque, donc je pense que le deuxième, c'est lui. Et, il a bien commencé. La première année, c'était comme ça, il était le deuxième, puis la saison suivante, il a gagné tout. Il a gagné tout ce qu'il peut, ce qu'il pouvait. Donc, je pense que c'était un vraiment très bon choix. Je pense que c'était peut-être une faute de l'avoir envoyé. Si je vois maintenant une différence entre les deux équipes, c'est que Sparta a de bons joueurs, certainement, vraiment de bons joueurs, même des joueurs pour l'équipe nationale tchèque. Mais complètement, l'équipe n'est pas si forte qu'en Plzeň, n'est pas si équilibrée. Bon, la différence est avec le nombre de buts. Vous avez à Sparta, vous avez David Lafata comme attaquant numéro 1, mais quand il avait les problèmes, quand il était blessé en décembre, Sparta voulait se qualifier pour la Ligue d'Europa. Il avait un grand problème, un Plzeň, donc s'il y a un joueur blessé, pas de problème, on a un autre qui le remplace. Si quelqu'un n'est pas en forme, on a un autre qui le remplace. À Sparta, c'est un problème. Pavel Kadejabek, le défenseur à droite, il est excellent, mais il était blessé, Sparta avait le problème. Sparta, dans ces années, n'est pas si forte qu'avant, donc elle ne peut acheter chaque joueur qu'il veut, parce qu'il y a Plzeň, il y a Jablonec, qui ont la même possibilité, qui ont même d'argent. Donc la position est affaiblie un peu.
Vous avez évoqué le cas de Jablonec, qui est apparu en haut du tableau cette saison. Pareil, c'était un petit club pendant très longtemps, ça reste un petit club. La particularité de ce club, c'est que son président est également, Miroslav Palta, est également le président aujourd'hui de la Fédération tchèque de football. C'est un homme qui a également dirigé le Sparta de Prague à une époque où la corruption était très présente dans le football tchèque. Comment est-il possible qu'un président d'une fédération soit également le président d'un club? Pour l'équité sportive, c'est quand même pas très normal.
Il y a des choses qui ne sont possibles qu'en République tchèque. Et c'est inexplicable. En revanche, on peut dire que Miroslav Plata est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à football. Il aime le foot et il fait absolument tout. Pour son équipe, pour son club, pour la fédération. C'est vrai, elle fait tout pour sa fédération. Mais en général, oui, c'est quelque chose d'incroyable, inexplicable. Rien à ajouter.
Rien à ajouter. Ce qui est étonnant, c'est que dans les médias tchèques, on ne voit pas trop de critiques ou de réactions. Les choses se sont faites, le club s'est construit, de l'argent a été investi, les résultats sont là aujourd'hui, et ça n'étonne personne, et ça ne choque personne, et ça ne gêne pas non plus, on a l'impression, les autres clubs.
Si, on en parle souvent, et plutôt on en a parlé souvent avant, dans le temps des élections, et on en a parlé très souvent. Mais bon, il n'y avait personne qui pouvait le remplacer, qui pouvait le faire mieux pour le foot tchèque. C'est vrai, vraiment, il a consacré toute sa vie au foot. Mais quand même, c'est quelque chose d'inexplicable d'être en chef et d'être en même temps le chef d'un club. Et tout le monde le savait avant. Il était le candidat à cette position et tout le monde le sait. Mais il y avait plusieurs problèmes en football tchèque qui sont peut-être encore plus choquants que ça.
Ouais, on va pas rentrer dans le sujet, ce serait trop long. Question plus générale, vous êtes journaliste, donc vous vous intéressez de près au championnat tchèque. Qu'avez-vous pensé de la Synotliga cette saison?
Évidemment que le championnat tchèque a ses problèmes. Évidemment, il y a par exemple de temps en temps, il y a des fautes des arbitres.
Ça, c'est partout. En France, c'est tous les week-ends.
Il y a aussi des affaires, il y a des problèmes. Mais quand même, il ne faut pas être strictement négatif. Oui, le nombre de buts augmente. Si on voit les spectateurs à Plzeň, chaque match, il y avait plus que 10 000 supporters. Et, en République tchèque, c'est très bien. Donc, et certainement, le championnat tchèque a sa qualité. Et même la lutte de Sparta et de Plzeň et aussi de Jablonec, c'était intéressant. Et je pense que la Ligue a sa qualité. On va voir pendant l'automne, pendant la Ligue des Champions et la Ligue d'Europa, si Sparta ou Plzeň vont qualifier pour la phase de groupe. Donc, ça montre aussi la qualité du championnat.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Merci de l'avoir suivi. L'actualité tchèque continue évidemment sur notre site internet, vous le savez, le www.radio.cz/fr, mais aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.